bizarre. Il a un statut, en quelque sorte, de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait
30
ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
D'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les gens qui se déclarent paysans à tête haute.
Bonsoir et bienvenue, c'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes sur Radio Canu. Donc c'est une nouvelle émission, c'est la première. Du coup c'est une émission qui va parler d'agriculture et de lutte paysanne. Donc d'abord on va expliquer un petit peu pourquoi et puis on verra de quoi on parle aujourd'hui après. Du coup pourquoi une émission sur les luttes paysannes? Parce que il semblerait qu'il y a de plus en plus de monde qui sont conscients de l'importance de l'agriculture pour construire notre autonomie et de la place centrale de l'agriculture dans nos vies et des enjeux qui y sont liés. Mais pourtant, souvent, l'agriculture reste très très loin de nos réalités et les réalités que vivent les paysans et les paysannes sur les fermes sont peu visibles et les luttes qu'ils mènent avec leurs alliés pour s'en sortir sont encore moins visibles. Du coup, le but de cette émission, c'est de contribuer un peu modestement à visibiliser non seulement ces réalités agricoles, mais aussi ces luttes pour les transformer. Du coup, ce sera à partir de maintenant un jeudi sur deux, de 18 à 19h, en alternance avec Grain de Sable, une émission d'actualité politique. Et donc, c'est sur le 102.2 et aussi sur Internet, sur radiocanu.org. Et pour expliquer, les paysannes et paysans dans la lutte des classes, le titre de l'émission, c'est un hommage aux paysans dans la lutte des classes, un livre qui a été écrit en 1970 par Bernard Lambert, qui faisait partie de ceux qui se sont appelés les paysans travailleurs. Et qu'ont été les premiers et premières à proposer une analyse d'une campagne traversée par la lutte des classes avec des paysans prolétarisés, paupérisés et que leur place dans cette lutte des classes était du côté des exploités. Donc on aura le temps d'en reparler plus tard de l'histoire de toutes ces luttes. Aujourd'hui on va parler de lutte pour la défense des terres agricoles face à l'urbanisation et au projet industriel. Du coup on pourrait citer des tas de luttes collectives actuelles, il y en a partout. On pourrait citer la lutte de la population du Val-Souza contre le projet de TGV Lyon-Turin, des projets autoroutiers à l'appel, les JO d'Annecy qui ont échoué, mais qui menaçaient aussi des terres agricoles. Actuellement, ces jours derniers, en Bolivie, il y a des gens qui résistent à un projet de route. Il y a trois ministres qui ont déjà démissionné suite aux violences policières contre la population qui résiste à ce projet de route. Mais du coup, on a choisi deux cas précis. Donc, on a glané pour cette émission des reportages faits ailleurs. D'abord, on va commencer avec Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est entre Nantes et Saint-Nazaire, et c'est là-bas qu'il y a un projet d'aéroport depuis une quarantaine d'années qui menace des habitants, des terres agricoles, des surfaces naturelles pour faire un aéroport non seulement, mais aussi un projet de grande agglomération du Grand Ouest, Nantes-Saint-Nazaire-Rennes. Donc, on s'écoute tout de suite d'abord un historique raconté par des personnes qui vivent là-bas, qui a été réalisé par un collectif qui s'appelle Spirit of Squatter.
Le projet d'aéroport, il est arrivé dans la région, il a été annoncé dans le journal. Les gens, ils ont appris ça en lisant le journal un matin, qu'ils voulaient faire un aéroport ici. Mmh. Et ça, c'était en 70, en 69 peut-être même. Et du coup, c'est un projet qui a presque 40 ans là. Mmh. qui était un projet très mégalo à l'époque. Ils imaginaient que l'aviation, ça allait devenir comme... il allait avoir des... que toute personne en fait allait tout le temps se déplacer par avion, par hélicoptère, que on allait relier des villes très proches par les airs. Et bon, ils ont toujours eu plein d'arguments pour expliquer que c'était une bonne idée, quoi. Et du coup, depuis 40 ans, cette région, elle est menacée par ce projet. À l'époque, les premiers à se mobiliser contre ce projet, c'était les paysans. Et ils ont formé une association qui s'appelle la DECA, où dans leur but principal, c'était de maintenir une activité agricole sur la zone, parce que la propagande de l'État, c'était de dire que c'était une zone déserte et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et eux, ils disaient, bah non, ici, il y a de la vie, il y a des agriculteurs qui travaillent. Et du coup, ça a été principalement ça. Et l'époque des années 70 dans la région, c'est des mouvements des paysans travailleurs. Et en fait, c'est des paysans qui avaient une conscience de la lutte des classes. Ils pensaient pas juste, ils luttaient pas juste pour leur outil de travail à eux, mais ils voyaient bien qu'il y avait des liens avec la classe ouvrière, que leur situation n'était pas si différente que ça. Et ils soutenaient les luttes qu'il y avait dans les usines. Et du coup, ça, c'était un mouvement assez fort, là, avec de l'époque. Et une autre... à l'époque aussi, ce qui était assez fort, c'était des luttes antinucléaires. Et dans la région, il y a eu plusieurs victoires à ce sujet, où il y a plusieurs projets de centrales nucléaires qui ont avorté, qui ont été abandonnés à la suite de luttes assez difficiles, quoi. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ils ont déclaré la zone comme zone d'aménagement différé, c'est la ZAD. Nous, on utilise encore ce mot-là aujourd'hui, mais comme une zone à défendre ou pour eux une zone à détruire. Mais à l'époque, en fait, c'est ça leur a permis d'être à chaque fois premier sur la liste à l'achat des terres, quoi. Dès qu'il y avait quelque chose qui se vendait, eux, ils étaient prioritaires et le Conseil Général rachetait les terres. Et ils ont fait ça pendant nombreuses années. Surtout que dans les années 70, les gens, ils croyaient plus en l'agriculture, en fait. Ils disaient, bon, c'est foutu, quoi. En fait, on va plus pouvoir vivre de l'agriculture. Et du coup, bah, depuis les années 70, il y a ce rachat des terres et le... Mais à la fois, le projet, ils en parlaient plus concrètement, quoi. Il était plus ni les institutions, ni les médias n'en parlaient, en fait. Et pendant longtemps, ils ont continué à racheter les terres comme ça, sans que ça soit vraiment clair que le projet allait avoir lieu.
Parce qu'ils n'ont pas terminé ces projets.
Parce qu'ils ont... En fait, c'est comme aussi, c'est sûrement la crise économique là dans les années 70 qui a fait que ça s'est un peu... Ça donne l'impression ils ont abandonné le projet, ils n'en parlaient plus. Et en fait, en tout ce temps-là, ils rachetaient les terres. Et du coup, petit à petit, ils sont devenus propriétaires d'une grande partie de la zone. Alors, je ne sais plus c'est quoi la totalité de...
Il y a qui dedans?
C'est le Conseil Général, c'est la région en fait.
C'est la région,
qui est rachetée tout ce temps-là. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que dans les mémoires, ça s'est un petit peu éteint, quoi. Les gens, ils étaient plus très attentifs à cette histoire-là, parce qu'on n'en parlait plus. Et c'est qu'en 2001 que le projet est réapparu. Le gouvernement a dit qu'ils allaient construire un aéroport ici. Et à ce moment-là, ce qui s'est formé, c'est une opposition citoyenne où il y a une association qui s'appelle la CIPA.
La CIPA.
Ouais, l'association des citoyens impactés par le projet d'aéroport, je crois, c'est ça.
Ok.
Je suis pas très très sûre, mais c'est eux. Ils ont travaillé sur plein de plans différents, beaucoup de recours juridiques pour demander l'annulation du projet. ils ont beaucoup travaillé auprès des élus pour faire qu'il y ait de plus en plus de politiques, d'hommes politiques qui s'opposent au projet et que petit à petit, une logique que petit à petit ça remonte vers le gouvernement. Aussi, ils ont fait des grandes campagnes d'information. Je pense qu'ils étaient assez actifs à une période aussi au niveau, à faire des actions de part et d'autre. Mais toujours sur un mode plutôt symbolique, quoi, à l'époque. Et au moment où les forages, les premières études de terrain ont eu lieu, les forages, il a commencé à y avoir un peu plus de gens de l'extérieur qui ont rejoint le mouvement, quoi. Peut-être ce que j'oublie de dire, c'est que dans les années 2000, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, ils ont fait passer une déclaration d'utilité publique pour dire que l'aéroport était reconnu comme utile pour la population. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils ouvraient la possibilité de réaliser le projet, quoi. Ça, c'était en 2008. Et en 2009, ils ont commencé les études de terrain. Du coup, à ce moment-là, il y avait un petit peu des gens qui venaient de l'extérieur. Et à la fois, les gens sur place se rendaient compte que il y avait besoin de plus de monde, en fait. Parce que dès la première résistance au forage, ils ont réagi en ramenant plus de gendarmes, en fait, plus de militaires sur le terrain pour permettre de faire les études, en fait. Et du coup, il y avait quelque chose comme ça où le nombre d'opposants présents, ça comptait, quoi. Et qu'il y avait comme ça un espèce d'appel vers l'extérieur, là, à rejoindre la lutte, quoi.
C'est qu'avant, ils ont dit que les citoyens soutenaient les projets avant de savoir même si les projets étaient réalisables, on pouvait les faire. Avant de faire des études, ils ont dit que les citoyens soutenaient.
Ils ont fait comme s'ils demandaient aux citoyens de dire si le projet leur convenait. Mais en fait, cette enquête, elle dit rien, quoi. Enfin, si tout le monde s'oppose, en fait, c'est eux qui décident s'ils pensent que c'est d'utilité publique.
Ouais.
Et à cette époque-là, en fait, sur cette étape-là, elle est quand même importante, en fait. Parce que c'est comme c'est ce qui permet la réalisation concrète du projet, en fait. Et en fait, à cette époque-là, les associations, ils ont cru qu'ils pouvaient donner leur parole, dire nous, on pense que ce projet, il est pas intéressant et on veut pas que donner nos terres pour ça. Ils sont allés vers les institutions pour donner cette parole-là, mais ils ont pas été entendus. Et alors que, par exemple, dans d'autres luttes contre des centrales nucléaires, par exemple à Plogoff, à la pointe de la Bretagne, dès le départ, les habitants, ils étaient opposés à ce projet-là. Et dès le départ, ils ont dit, on va pas laisser l'enquête d'utilité publique se faire.
Ouais.
Mais ici, elle a été acceptée, en fait. Enfin, les associations citoyennes se sont dit qu'ils pouvaient porter leur parole là-dedans. Et ils se sont rendus compte après coup que, en fait, même en disant, eux, qu'ils étaient contre le projet, ça avait rien changé, en fait. Que ça, qu'ils étaient pas entendus, quoi.
And why is it important to be here, to occupy? What would you tell to the people to mobilize them to come?
Moi, je sais pas si. Pendant longtemps, on a appelé à occuper ici, et c'était fort de se retrouver à plus nombreux à squatter sur cette zone. Et actuellement, on est quand même dans une sorte de dilemme. C'est que pour s'opposer au projet, on a besoin d'être plus nombreux. Et en même temps, pour être un peu bien organisé et efficace, il faut que ça soit plus dense, nos liens entre nous déjà. Du coup, je sais pas si j'ai envie de dire, tu vois, si là tu me demandes, je sais pas si j'ai envie de dire venez à tout prix ici pour lutter avec nous. Moi, je pense que je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui luttent ailleurs aussi. Et ça, pour moi, ça, c'est riche aussi de savoir et de pouvoir se mettre en lien peut-être.
êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2, c'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes. On vient de s'écouter We Gonna Take the World des Angelic Upstarts. Du coup, voilà, on a écouté un peu l'historique de la lutte à Notre-Dame-des-Landes contre le projet d'aéroport. Donc la lutte, elle s'est intensifiée un peu, comme on l'a entendu dans le reportage, ces deux dernières années, et puis ces derniers mois aussi. Notamment, le 7 mai dernier, il y a eu une manifestation fourche en main à l'appel de différents collectifs, avec tout un tas de monde qui est venu sur place pour défricher et installer des personnes. Du coup, on va écouter tout de suite le témoignage de membres du collectif de maraîchage qui s'appelle Le Sabot, qui s'est installé justement sur ces friches depuis le 7 mai.
Radio Z sur 107.6. La radio qui n'aime pas vraiment les avions.
Et voilà, du coup, pendant le week-end, on a un peu réfléchi avec les autres aussi, comment on fait un projet comme celui-ci qui n'est pas
forcément là.
On était assez jeunes.
Comme pas mal de boulot et d'investissement personnel.
On n'avait pas trop de
divergence de
finances. Alors concrètement, ça s'est fait comment?
Le week-end, on a démarré directement à rechercher des terres, en fait. Parce qu'il y en a qui devaient repartir loin, dont toi, dans le Jura. On a essayé de repérer les parcelles le week-end même où on s'est décidé de monter un groupe, en fait.
Ouais, on a fait un tour sur la ZAD pour essayer de trouver quel terrain qu'on pouvait occuper. Parce que finalement, c'était pas si évident qu'il y avait beaucoup de terres disponibles. Il n'y en avait même pas, en fait. Il n'y avait pas de terres disponibles. Il y a des friches qui étaient, pas des terres inoccupées, mais qui étaient en friche. Donc, on a choisi celle-ci parce qu'elle était relativement centrale, assez grande, et puis qu'il n'y avait pas trop de gros arbres. Enfin, c'était encore que, c'était pas évident. Et puis.
Il était abandonné depuis moins de 10 ans.
Et puis, ce week-end-là, on a aussi pensé que comment on pourrait. Qu'on ne s'installe pas juste ici en douce, enfin anonymement, comme tous les autres squats. On voulait porter une action, enfin voilà, que ce soit rendu visible.
C'est rentré en conflit aussi avec les agriculteurs locaux.
Voilà, il y a des objectifs principaux aussi de cette occupation, c'était de recréer du lien entre les différents acteurs de la lutte, notamment entre les occupants squatteurs et puis les occupants pas squatteurs, mais aussi les citoyennes et l'association des agriculteurs. Comme c'est pas les mêmes modes d'organisation les deux, bien que ça commençait déjà à changer, mais il y avait des fois un rapport un peu, même s'il n'est pas conflictuel, mais des incompréhensions, et puis des moments où l'un et l'autre se soutenaient pas, enfin c'était assez, des fois, bon, c'était pas forcément chouette. Donc c'était un début, c'est on crée un peu le lien avec les agriculteurs locaux pour renforcer la lutte, enfin, c'était toujours l'objectif. Et donc on est allé voir dans les semaines qui suivent, et on a pris contact avec les deux associations, là, citoyennes et des agriculteurs. Et déjà c'était une démarche qu'ils ont un peu applaudi, si on veut, parce qu'ils étaient déjà contents qu'on vienne les consulter avant de s'installer. Ils trouvaient ça déjà chouette. Et puis le projet, ils étaient tout de suite emballés. Ils se sont montrés partants pour sinon co-organiser l'action, mais soutenir et puis... Enfin, eux, co-organiser, ils ont fait quand même. Et donc l'objectif, c'était une action. Enfin, l'objectif initial, c'était une action de manifestation-occupation, enfin, une manifestation fourche en main. C'est le 7 mai, on a organisé une grande manifestation, dont on peut voir l'affiche. Donc fourche en main, l'objectif, c'était de défricher la parcelle. Il y a comme un peu dans toute la France, voire au-delà, et il y a un millier de personnes qui est venu. Donc c'était assez encourageant. Et le matin, on est sorti du chemin, donc c'est le chemin qui est perpendiculaire à la route. En fait, on avait rendez-vous à La Paclée, un village qui est à 2 km, et donc il y a rendez-vous avec les gens de Nantes, et puis même les gens d'ailleurs, quoi. Et tous les gens de la ZAD, on est parti un peu avant, pas forcément groupé, mais plus ou moins sur la route. Et nous, quand on est sorti du chemin, qu'on est arrivé visuellement sur la route, il y a des dizaines de personnes qui avançaient sur la Paclée avec des fourches. Et puis, comme la route, elle est un peu bombée, on ne voyait pas ce qui arrivait derrière. Et puis, il y a toujours des gens qui arrivaient. On avait l'impression qu'il y avait des... Ouais, une jacquerie, quoi. On allait croire qu'on prenait la Bastille. Ou, tu vois, c'était assez... c'était dingue.
En
pleine campagne. Puis, il y avait les flics au loin qui arrivaient. Ils ont vite fait demi-tour. C'était assez chouette. Nous, on marchait vers eux avec les fourches et les crocs. Il y avait quelqu'un qui avait une hallebarde avec les râteaux, les machins, et c'était assez rigolo, quoi. Après, on est arrivé à La Paclée, puis le temps d'attendre les arrivants, on est reparti en fanfare avec une batucada, des tracteurs, et on est arrivé sur la parcelle, il y a eu un discours applaudi, puis après on est rentré et en moins d'une heure, il y avait déjà un bon bout qui était défriché, enfin, et tout le monde était au taquet, ils étaient, enfin, tous à fond, à défricher avec n'importe quoi, avec des râteaux, enfin... C'était fou, quoi. Et j'avoue, je croyais pas. Je pensais jamais que ça allait être dans la journée. Enfin, ça me paraissait être un défi assez irrelevable, quoi, de défricher cette parcelle et de la travailler en un temps en 3 semaines. Je me dis, putain, c'est fou. Et en fait, le premier jour, c'était défriché et j'étais sur le cul. Il y a des gens qui travaillaient jusqu'à la nuit, quoi. C'était
bien organisé, il n'y a pas eu d'accident. Pourtant, il y avait des outils tranchants, il y avait des grands... des personnes âgées, des petits-enfants qui couraient. Enfin, c'est vraiment bien organisé.
Il y a pas mal de gens qui sont restés dormir. On avait fauché une parcelle qui était plutôt en herbe, on l'avait fauché, puis c'était un terrain de camping. Okay. C'est là où il y a eu les concerts, il y a eu la restauration tout collectif pour... après libre. Parce qu'à la manif, il y avait pas mal de c'était assez hétéroclite, il y avait des squatteurs, il y avait des proches des squatteurs un peu partout, mais il y avait aussi des agriculteurs, des paysans de la conf qui venaient de partout. Il y avait pas mal de monde différent, quoi. Donc il y a le premier jour, on s'est dit, ah bah, un des objectifs, ça a marché, parce que ça a rassemblé du monde. Et
d'horizons
différents. Et les jours qui suivent, on l'a bien vu avec les gens qui passaient ici et les réactions de toutes les composantes de la lutte qui étaient vraiment... enfin, ça avait... J'ai l'impression que ça a remis un peu... À la sortie de l'hiver, ça a un peu redynamisé la lutte, en fait. C'était assez...
Et la confiance entre les occupants de la zone, ouais. Et les locaux, quoi.
Ouais. Ils comptaient faire quelque chose qui sortait un peu de leurs préjugés, de manie violente. Enfin, tu vois, des fois, quand on organise un événement comme ça qui se passe très bien, puis qui est assez porteur de sens, ça a rassemblé des gens, quoi, c'est sûr.
Le présent, maintenant, c'est...
Le présent, maintenant, c'est...
Le marché.
Ouais, c'est la distribution de légumes sur place, à prix libre, donc 2 jours par semaine.
C'est pas évident parce qu'on n'a aucune ferme officielle.
Aucune quoi ?
Ferme officielle, ouais. On n'est pas déclaré à la MSA, on n'a aucun statut qui nous donne le droit de pouvoir nous installer dans quelconque marché. Donc c'est un peu problématique. Pour le moment, il y a du monde qui vient directement sur place. Comme cet après-midi d'ailleurs.
Au départ, on pensait, l'idée de base avant de s'installer, c'était de faire un marché, voire deux, enfin d'aller vendre sur le marché pour visibiliser un peu la ZAD hors de la ZAD, en fait, enfin visibiliser la lutte, discuter avec des gens, même tout simplement d'autres choses, pas forcément de l'aéroport, mais de casser les idées toutes faites, les idées reçues, et puis d'inviter petit à petit les gens à peut-être plus venir ici, en fait, quoi. Et puis on a vite laissé tomber l'idée de marché parce que ça semblait assez compliqué. Bah, notamment, ouais, comme elle disait, notamment par rapport au statut. Puis il n'y a pas forcément de marché qui s'y prête dans le coin. Il y a un marché de producteurs, mais il y a déjà 3 maraîchers qui s'installent, qui débutent. Enfin, on ne va pas arriver ici et faire de la concurrence un peu déloyale parce que nous, on n'a pas toute leur charge. Donc, c'est une idée qu'on a vite laissé tomber. Puis bah, finalement, on distribue les légumes sur place 2 jours par semaine et ça se passe plutôt pas mal. Il y a les gens. Bon, c'est pas l'objectif initial de rencontrer des gens sur le marché, mais là, on y repense et ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on pensait faire un marché à Notre-Dame. Et puis hier, t'as bien vu, on s'est posé à Notre-Dame. C'est le premier jour de marché, je pense que ça continuera, même s'il n'y avait pas grand monde.
On est un nouveau marché. Un marché de prix libre, complètement déloyal. On n'est pas au milieu d'un marché déjà existant, donc c'est peut-être un peu différent comme démarche. Donc c'est peut-être facilement acceptable. Je sais pas, on verra bien.
Donc il y a pas mal de production assez abondante, quoi. Et...
On pense faire aussi des repas à base de nos légumes, du bouffe de soutien.
Du coup, c'est pas mal les occupants. De la ZAD, quoi.
Ouais, ceux qui n'ont pas de potager ou pas assez de surface, il y a un peu d'autres qui viennent ici. Mais donc il y a ces occupants-là, mais il y a aussi les habitants, enfin des occupants de la ZAD, mais pas des squatteurs, des locataires, quoi. Puis des gens de l'extérieur même qui passent, il y a un peu de tout le monde, quoi. Là on voit des... je sais pas qui c'est.
C'est vrai que c'est pas très visuel. Faut déjà oser venir sur la ZAD. Oser parler aux occupants bizarres qui viennent squatter des terres. Enfin voilà, c'est toute une démarche, c'est pas évident pour tout le monde. Donc aller directement sur les marchés, ça aurait peut-être facilité le lien social. C'est pas évident.
Il y a quand même une dame assez âgée.
Bien.
Non, là.
Ah oui, je sais pas que
c'est. Ça attire un peu aussi toutes les générations, c'est bien.
Ouais.
Mais faut dire aussi que ça a été un peu facilité parce qu'il y a Damien qui a commencé en amont de faire de la vente de pain.
Ah.
Et qui est notre voisin en direct. Donc on a profité de ses horaires à lui.
Damien fait du pain tous les lundis.
Lundi et jeudi.
Une fois par semaine, ouais. Et puis pour les causes, un peu des fois qu'il y a besoin de pain, s'il y a des actions, des choses.
Et puis il a déjà amorcé ce processus-là, donc il y a déjà des gens qui viennent chez lui. Et ça nous envoie du monde un peu. Et lui, il fait ça depuis combien de temps, là, Damien, déjà?
Depuis l'automne, donc il a dû commencer le pain peut-être début de l'hiver, quelque chose comme ça. Donc ça fait quelques mois, donc les gens savent qu'il est là, il distribue le pain à l'épicerie de Notre-Dame maintenant. Bon, c'était déjà ça rendait visible pour les gens de l'extérieur, ça commence à rendre visible en fait. Avec les légumes, ça.
C'est vrai qu'on gagne en crédibilité par rapport à la valeur sûre de la campagne qu'est le travail, mine de rien, ça marche énormément. Quoi. Surtout avec les anciennes générations.
Et du coup, le futur, vous voyez comment? Vous ne voyez pas?
C'est assez dur de se projeter là, parce que il y a la phase d'expulsion qui a commencé, quoi, avec l'avenue des huissiers.
Donc,
non, ils sont pas venus ici, mais ils sont venus dans les maisons. Donc ils sont venus les premiers jours en force avec pas mal de flics, faire des relevés d'identité. Donc tous les gens qui étaient dans les maisons, en fait, ils prenaient leur identité, même si c'était pas les habitants, ils se souciaient pas de savoir. Puis quelques temps après, ils sont revenus pour apporter les convocations, les convocations comparaître, pour les jugements, quoi. Donc même si ça ne nous concerne pas directement, on peut supposer qu'ils ne nous expulseront pas avant d'expulser et de raser les maisons, ou alors qu'ils nous expulseront en même temps. Donc ça nous concerne indirectement, enfin on se sent un peu dans... Ouais. Donc, là il y a eu cette phase-là il y a quelques semaines, et c'est vrai que ça a mis un peu un plomb, quoi. Même si au départ on savait que ça pouvait, enfin, que ça allait pas forcément durer ce projet-là, mais on pensait pas que ça allait arriver si vite, cette histoire-là. Puis moi je m'étais assez habitué à être tranquille ici.
Ouais.
Et donc là, on n'arrive pas du tout à se projeter, quoi.
En crise identitaire. Non, mais ça brouille un peu. Ouais. Notre perception des choses et notre projection, on est un peu vraiment, enfin beaucoup plus au jour le jour qu'auparavant. On voit les hélicoptères passer, on sent qu'il y a une tension beaucoup plus aiguë qu'avant. Quoi.
Vous avez quand même planté pour l'hiver?
On continue, bien sûr, c'est que ça fait partie déjà. Ça nous fait tenir moralement, mais surtout rien qu'au commencement, si on aurait pu, enfin on pouvait imaginer se faire expulser au bout d'une semaine, enfin c'était pas exclu, donc et dans ce cas là on n'aurait rien fait, donc
on continue quand même d'y croire malgré tout.
Ouais, d'abandonner sous la pression, c'est un peu, ça serait abdiquer trop facilement, quoi. Si dès qu'il y a une quelconque pression, même d'expulsion, on se casserait, ils auraient gagné, quoi. Mm. Là, on plante quand même, on a envie de rester, on veut rester.
Mm. Et on restera. En tout cas, les choux sont là.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes, l'émission sur les luttes paysannes. On vient de s'écouter le morceau Yours Alone des Dum Dum Girls. Et alors le reportage avant sur le collectif de maraîchers Le Sabot, ça a été réalisé par Radio Z, donc une radio pirate qui émet sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, bah, du coup on continue sur... sur ça, souvent ce genre de lutte contre des projets industriels, on leur oppose, enfin les aménageurs leur opposent qu'il faut bien mettre ça quelque part, ou que ce serait des revendications égoïstes et que ça consisterait à dire pas dans mon jardin. Bah, du coup ici on voit bien que il s'agit pas de dire pas dans mon jardin, mais ni ici ni ailleurs. Et du coup on va lire un texte de 1990, donc déjà vieux, mais qui résume assez bien tout ça. Un petit extrait de l'Encyclopédie des nuisances, d'un texte qui s'appelle Adresse à tous ceux qui ne veulent pas gérer les nuisances mais les supprimer. De même qu'on opposait et qu'on oppose toujours aux revendications des salariés un intérêt général de l'économie, de même les planificateurs de l'ordure et autres docteurs espoubelles ne manquent pas de dénoncer l'égoïsme borné et irresponsable de ceux qui s'élèvent contre une nuisance locale, déchets, autoroutes, TGV, sans vouloir considérer qu'il faut bien la mettre quelque part. La seule réponse digne d'un tel chantage à l'intérêt général consiste évidemment à affirmer que quand on ne veut de nuisance nulle part, il faut bien commencer à les refuser exemplairement là où on est. Et en conséquence, à préparer l'unification des luttes contre les nuisances en sachant exprimer les raisons universelles de toute protestation particulière. Que des individus, n'invoquant aucune qualification ni spécialité, ne représentant qu'eux-mêmes, prennent la liberté de s'associer pour proclamer et mettre en pratique leur jugement du monde, voilà qui paraîtra peu réaliste à une époque paralysée par l'isolement et le sentiment de fatalité qu'il suscite. Pourtant, à côté de tant de pseudo-événements fabriqués à la chaîne, il est un fait qui s'entête à ridiculiser les calculs d'en haut comme le cynisme d'en bas. Toutes les aspirations à une vie libre et tous les besoins humains, à commencer par les plus élémentaires, convergent vers l'urgence historique de mettre un terme au ravage de la démence économique. Voilà, donc maintenant on va revenir un peu plus près d'ici et parler d'une autre action qui a eu lieu et qui a toujours lieu à Genève. Donc ça a commencé en fait le 17 avril dernier, dans le cadre de la Journée mondiale des luttes paysannes. Donc pour expliquer un peu, la Journée mondiale des luttes paysannes, ça a été initié par la Via Campesina, qui est un mouvement international de paysans, paysannes, pêcheurs et indigènes. Et du coup c'est en mémoire du 17 avril 1996 où la police brésilienne, pour défendre les grands propriétaires terriens, a abattu 19 personnes qui participaient à une manifestation de paysans sans terre. Donc tous les 17 avril il y a une journée internationale de lutte, et donc dans ce cadre-là à Genève ce 17 avril il y a une friche dans une zone industrielle pleine de jolies fabriques d'horlogerie qui a été occupée, une friche de 3 hectares qui a été occupée par 2 à 300 personnes, et du coup c'est devenu un jardin collectif qui existe encore. Donc on va s'écouter, donc c'est des sons qui ont été réalisés par les gens qui occupent là-bas et par l'émission genevoise de Bruit et de Fureur. Donc on s'écoute d'abord un texte qui résume un peu ce que souhaitent, enfin les revendications liées à cette action. Et donc ce terrain c'est le Champ des Filles, ça s'appelle, et puis après un peu des explications plus sur la durée, sur ce jardin collectif donc qui existe encore. Voilà, on s'écoute ça tout de suite.
Le système agricole de chaque région, à chaque époque, est lié au système social dans son ensemble et aux forces qui le modèlent. Actuellement, un mouvement qui semble irrésistible transforme les systèmes agricoles au niveau mondial. La petite paysannerie tend à disparaître, semble condamnée à plus ou moins court terme selon les régions, alors que s'impose la production industrielle à large échelle. Mais à travers le monde, des millions de paysans souhaitent continuer à cultiver la terre à leur échelle, au moyen des techniques qu'ils ont élaborées sur le terrain, à vivre de la terre, à vivre sur la terre qu'ils cultivent. Et pour se libérer des contraintes qui les forcent souvent à se tuer à la tâche, ils imaginent leur propre voie de transformation de l'économie paysanne, et donc des rapports sociaux et du système social en général. Une voie paysanne. Nous souhaitons que la voie paysanne s'impose.
L'intermédiaire qui est en train de perdre l'emploi, je vous expliquais tantôt là, que le lait avait augmenté assez bien au mois de novembre, et puis maintenant il rechute, mais ça ne rechute pas dans les magasins, quoi, hein. C'est ça le gros problème. Hein. Donc, qui empoche tout ça, hein.
Pour en arriver là, il faut qu'un changement mental s'opère. Que ceux qui travaillent la terre veuillent exercer leur autonomie, veuillent ne plus dépendre des intérêts des politiciens et des financiers, ne croient plus en leur infériorité ni en l'impossibilité de transformer la réalité, de renverser l'ordre des choses. C'est ce que nous faisons en occupant une terre fertile, en y construisant notre maison, en y semant des plantes desquelles nous nous nourrirons et dont nous reproduirons les semences. C'est ce que nous faisons en ne cherchant pas à nous contorsionner pour plier notre action dans le cadre de lois qui sont contraires à ce que nous voulons. Il ne s'agit pas d'ériger le libre arbitre de l'individu humain tout-puissant au-dessus de tout. Si nous n'allons pas occuper les terrains de retraités modestes qui asphyxient la terre à large rasade d'engrais et pesticides, ce n'est pas parce qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est que le jour où nous aurons démantelé les usines de pesticides et d'engrais, ces jardiniers du dimanche cultiveront sans. Nous aimerions les amener à lutter, eux aussi, contre les magnats de la chimie. Mais sinon, on ne va pas leur dire ce qu'ils ont à faire. Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio sous les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social. Et dans ce cadre, nous pourrons développer une agriculture paysanne autonome.
Comment nourrir demain 9 milliards de personnes?
To feed the world.
Qui va nourrir le monde?
Who will feed the world?
Who will feed the world?
Qui va nourrir le monde? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tous ensemble.
Une agriculture paysanne autonome ne signifie pas qu'une portion de la population, en s'attelant à la tâche de nourrir les autres habitants, n'en devienne, même volontairement, esclave. Ce devrait être le souci de tous, puisque nous en avons besoin pour vivre. Que le travail de la terre ne soit pas une corvée. Elle ne signifie pas non plus un retour au passé, aux espèces anciennes uniquement, etc. Mais la prise en main, par nous-mêmes, de l'ensemble des activités nécessaires à la production d'aliments. Maintien de l'humus, protection à notre échelle des équilibres naturels, des ressources en eau et de la multiplicité des vies végétales et animales. Reproduction des semences, préservation et invention des techniques, connaissance et solidarité qui forment la culture paysanne.
Tout a commencé le dimanche 17 avril à 11h tapante. Malgré les coups de fil menaçants de la police genevoise, plus de 200 personnes se sont retrouvées au terminus du bus 23, en plein cœur de la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Entre les immeubles de verre des compagnies horlogères, s'étendait un champ en friche de 3 hectares. Nous étions là pour redonner vie, pour une journée au moins, à ce champ abandonné depuis trop longtemps. L'occupation de cette parcelle s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement international de lutte paysanne et de réappropriation de terres, un combat de longue haleine contre l'industrie agroalimentaire. Le premier jour ensoleillé de cette occupation s'est déroulé dans l'euphorie. Alors qu'une chaîne humaine se chargeait de porter tout le matériel pour la journée au centre du champ, un tracteur et des dizaines de courageuses défricheuses ouvraient les lignes de terre où étaient placés des plantons récupérés de salades, de choux, de courgettes ainsi que des patates et une rangée d'arbres fruitiers. Cette terre, laissée à l'abandon, reprenait peu à peu vie. Un profil de sol creusé au milieu du champ nous a permis de nous rendre compte de la qualité de cette terre vouée à recevoir un complexe industriel de plus. Sur ce terrain, qui a rapidement reçu le nom de « Champ des filles », nous avons érigé une imposante et solide tour de paille, ainsi qu'un abri pour y ranger nos outils. Chaque pieu, chaque tige, chaque racine plantée nous liait plus fortement à cette terre. Lors d'une réunion en début de soirée, cette action, qui aurait pu rester symbolique et éphémère, s'est inscrite dans la durée. Nous avons pris la décision collective de rester sur le champ pour y faire croître des légumes et le bonheur que nous avions semé. Pendant plus d'un mois, des personnes d'horizons différentes se sont attelées à transformer cette terre en friche, en un lieu d'expérimentation potagère et collective. En plus de planter des légumes et de les arroser régulièrement, nous avons bâti plusieurs structures en matériaux de récupération. Une pergola, une cuisine, une bibliothèque. Nous avons construit ce que nous voulions, comme nous le voulions, sans spécialistes. De généreux dons nous ont permis de planter des arbustes indigènes qui dans quelques années seront des paravents efficaces et formeront un couloir biologique. Un chêne a également été planté sur la place centrale où ses feuilles nous protègent déjà du soleil. Les paysannes ne sont pas les seules à venir soutenir concrètement cette réappropriation de terres. De nombreuses personnes habitantes de la commune participent régulièrement à la vie du champ, soit en venant donner un coup de main pour le désherbage ou l'arrosage, soit en venant partager quelques mots, un verre ou un repas. Alors que nous croquions nos premiers radis et nos premières fraises, ce rêve fou devenait une réalité. Bien qu'à l'abandon, la parcelle que nous occupons a un propriétaire. La société suisse Prime Site, basée à Olten, l'un des plus gros spéculateurs de Suisse dont les biens immobiliers dépassent les 8 milliards de francs, possède ce champ suite au rachat du groupe Gelmoli Immobilier en 2010. SPS, qui est proche du Crédit Suisse, estime la valeur de ces terrains à 12 outrageux millions, soit plus de 420 francs par mètre carré. Le jeudi 19 mai, deux jours après avoir annoncé à la presse un bénéfice de 57,8 millions en hausse de plus de 20%, le propriétaire des lieux s'est rappelé à notre bon souvenir. Au petit matin, alors que nos salades fournissaient leurs derniers efforts avant la cueillette, la société Swiss Prime Site, par l'intermédiaire de la régie Wincasa, a décidé de se faire justice avec la collaboration bienveillante de la police. Tout a commencé à 7h du matin, lorsque les policiers ont arrêté et emmené au poste trois personnes qui passaient la nuit sur le champ. Alertés, les autres occupants du lieu se sont immédiatement rendus sur place. Ils y ont retrouvé les représentants du propriétaire accompagnés d'ouvriers, d'agents de protection privée et de nombreux policiers. Les sbires du propriétaire se sont mis à détruire systématiquement nos lieux de vie. La pergola sur laquelle poussaient des volubilis a été rasée. Notre bibliothèque de campagne a été détruite. L'abri à outils, érigé le premier jour, a perdu son toit et ses murs de paille. Mais la cuisine et la tour de paille ont tenu bon, et nous ne nous sommes pas laissés faire. Au fur et à mesure qu'ils détruisaient, nous récupérions ce qu'ils jetaient. Lorsqu'un tracteur a pénétré sur le champ pour labourer un mois de travail collectif, nous nous sommes interposés jusqu'à ce qu'il recule. Face à notre résistance déterminée et à la présence embarrassante de la presse, nos assaillants se sont retirés. Leur destruction aveugle ne nous a pas freinés, bien au contraire. Dès qu'ils sont repartis, nous nous sommes attelés à la reconstruction de ce qu'ils avaient systématiquement abattu. À leur amour du vide, de l'argent et du béton, à leur logique violente et mortifère, nous opposons notre détermination collective, notre inventivité et notre désir de vivre et de partager des moments précieux. Malgré les pressions et la violence qu'ils ont déployées, nous ne quitterons pas ce champ. Laisser une telle terre en friche, à la merci des spéculateurs, est un crime. Car la vie sur ce champ occupé est plus riche que tous les portefeuilles immobiliers. Elle est riche des rencontres et des activités qui s'y déroulent. Nous partageons des techniques agricoles pour développer notre autonomie. Nous cuisinons et nous mangeons collectivement en échangeant des recettes originales de légumes oubliés. Nous projetons des films et des documentaires oubliés des salles de cinéma. Tout cela se passe sans échange monétaire, sans carte de membre. Nous nous sommes organisés de manière horizontale sur la base d'une participation libre et volontaire. Personne ne donne d'ordre ou ne délègue à d'autres le pouvoir de décider à sa place. Comme nos camarades de Notre-Dame-des-Landes et du potager des Lentillères en France, de Heathrow en Angleterre, de Mirafiori en Italie et bien d'autres, nous avons envie de vivre des moments collectifs à l'encontre de la solitude dans laquelle nous relègue le quotidien, de voir pousser les légumes et les manger ensemble, de nous réapproprier les savoirs qui se sont perdus. Bref, nous avons envie de construire le monde dans lequel nous voulons vivre. Nous vous donnons rendez-vous tous les soirs à 18h pour un arrosage, une discussion ou une dégustation de salade au Champ des Filles, à la Réziplo du bus 23, appelant les watts.
Vous êtes toujours sur Radio Canu. C'est les paysans et paysans dans la lutte des classes. Donc on vient de s'écouter deux reportages sur le Champ des Filles, donc un jardin occupé dans une zone industrielle à côté de Genève à Plan-les-Ouates. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission sur les luttes pour la défense des terres agricoles. Quelques petites infos avant de finir. Si vous voulez plus d'informations sur ces sujets-là, déjà sur Notre-Dame-des-Landes, il y a la revue Z, donc une revue itinérante de critique sociale, qui a fait son numéro 4, qui est disponible en librairie, sur Nantes et sa région, et sur le capitalisme vert, sur des choses comme ça. Et donc il y a un dossier sur la résistance à l'aéroport. Il y a un livre qui vient de paraître ou qui va paraître du collectif Sudave, qui est aux éditions Nopassaran, qui s'appelle C'est quoi Starmac, et qui revient également sur cette lutte. Sur ce qui se passe ailleurs aussi, on peut citer quelques sites internet en région PACA, où c'est une des régions avec Rhône-Alpes d'ailleurs la plus où l'urbanisation va le plus vite. Puisque il y a 20 ou 25% de terres agricoles contre une moyenne de 50% au niveau national, et donc ça s'urbanise de plus en plus. Il y a un collectif de défense des terres fertiles qui s'est créé, donc ils ont un site qui s'appelle Terres Fertiles, donc c'est terre-fertile au pluriel.fr. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur reclaimthefields.org. Donc Reclaim the Fields, c'est un réseau européen de jeunes paysans, paysannes et sans terre qui se mobilisent autour de l'accès à la terre et de ces sujets-là. Du coup, voilà, vous pouvez aller sur leur site. Ils appelaient justement à soutenir tout ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi l'action de Genève. Et puis, on va en reparler puisqu'on va faire un petit agenda, d'autres actualités agricoles pour terminer. Du coup, justement sur Reclaim the Field, jusqu'à demain en Roumanie, dans une région qui est menacée par l'exploitation aurifère, il y avait un rassemblement de 10 jours de jeunes. Paysans, paysannes et sans terre, du coup on en reparlera sûrement de ce qui s'est passé là-bas et de ce que ça a donné ces rencontres. À la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, il y a un appel à venir pour une manifestation. Donc comme il y a des menaces d'expulsion, on l'a entendu tout à l'heure, il y a un rendez-vous qui est donné le quatrième samedi après une expulsion, après les premières expulsions, donc le quatrième samedi suivant à 11h. À côté de la ZAD. Et donc la dernière, c'était une manif fourche en main. Cette fois-ci, ce sera une manif fourche, planchette, marteau et clou en main. Voilà. Sinon, dans d'autres actus dans l'agenda, il y a le procès des faucheurs et faucheuses volontaires de Colmar jusqu'à demain aussi. Donc c'est 60 personnes qui comparaissent pour avoir détruit des plants de vignes OGM à l'été 2010. Donc des plants de vignes OGM qui avaient été faits par l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique. Donc voilà, il risque 2 ou 3 ans de prison suite aux nouvelles lois de 2008 sur l'action de fauchage. Certains chercheurs et chercheuses de ces laboratoires-là ont ressorti les mêmes arguments habituels, que leur recherche est totalement séparée de ces applications. Mais donc voilà, les faucheurs et faucheuses risquent pas mal. Donc il y aura les résultats du procès, enfin le procès jusqu'à demain, et après on attendra le délibéré. Du coup, c'est terminé pour aujourd'hui. Les paysannes et paysans dans la lutte des classes, si vous avez des suggestions, des propositions, vous pouvez nous contacter sur luttepaysanne@riseup.net, donc lutte paysanne au pluriel, tout attaché, @riseup.net. Et il y aura bientôt un blog avec les archives des anciennes émissions, mais on vous tiendra au courant. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines, et puis on vous laisse tout de suite à 19h avec le Canu Info. Bonne soirée.
Le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout ça parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on
continue à tous entendre parler, donc on va laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire, en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans à tête haute.